Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec, grâce à Dieu, les critiques Daniel Lehmann, de Bande à part, Charlotte Lipinska de Vanity Fair, Pierrot Pierre Murat de Télérama, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et du Mylène Farmer Club pour parler ce soir de Grâce à Dieu, de Vice, de la chute de l'Empire américain, du Chant du Loup, le Chant du Loup, de Deux Fils, de Destroyer et de Black Snake. Dans le courrier de la semaine, eh bien, les auditeurs ne sont pas tendres avec La Favorite de Yorgos Lanthimos, Richard Howard. Le film ne transmet aucune émotion à part du moche et encore du moche. Et des anachronismes en costume d'époque, invraisemblables pour un film historique. Pierre Cusor trouve que La Favorite a des focales incompréhensibles, des lumières d'une laideur imparable. J'ai eu, dit très drôlement, il faut dire Pierre Cusor, l'impression de voir le film à travers les yeux du lapin caché sous l'armoire qui regarde Thierry Lhermitte et Anémone dont le Père Noël est une ordure.
Ben c'est vrai. Il a raison.
Je trouve ça assez...
Il a raison.
Mais ça aurait été plus drôle.
C'est pas drôle, La Favorite.
Ah, tiens, c'est ça, c'est pour toi, tout, ça, Xavier. Ah, Estelle, qui habite Lyon, juge que Lanthimos se regarde filmer et que les scènes saphiques sont aussi érotiques qu'une étreinte entre Patrick l'étoile de mer et Bob l'éponge.
Alors, il ne s'étreigne pas, il y a des suspicions quand une relation charnelle, mais l'auteur aujourd'hui décédé de Bob l'éponge avait dit non, ça n'est pas du prosélytisme de l'homosexualité masculine.
Non, mais tu
puisque
peux.
Ni Patrick, ni Bob n'ont
pas interrogé là, voilà. Je t'ai pas interrogé.
Comme ils n'ont pas de pénis, ils ne peuvent pas, mais sinon ils pourraient.
La Favorite a quelques défenseurs, dont Adrien Delarue, qui est fasciné par le propos politique de la fable de Lanthimos et qui parle même d'un très bel objet de cinéma, ou Annie Goujard de Paris, qui parle d'un film insolent qui frôle le chef-d'œuvre.
De très loin.
Mais frôle de loin.
De très loin. Avec une longue vue, allez, quand même, des focales.
Christine Fink n'a pas aimé À cause des filles de Pascal Thomas, alors que le casting est séduisant, les acteurs sont touchants, l'apparition d'Eric Neuf m'a agréablement surprise, la musique est entraînante, le vin coule à flot, et pourtant ce film manque cruellement de vie. Quel dommage, Arnaud Sanquer est plus dur. Le film de Pascal Thomas est un naufrage absolu, cette impression terrible de voir un artiste en perdition sombrer dans le ridicule. D'ailleurs, comme une sorte de lapsus, Lelouch est cité dans ce film À cause des filles. Arnaud Beaumont trouve au contraire qu'À cause des filles fait preuve d'une grande imagination scénaristique et est porté par des acteurs au plus juste, parmi lesquels Eric Neuf, avec une réplique, qui est brève, hein, qui lui ressemble férocement drôle. C'est à se demander si les dialogues du masque ne sont pas signés Pascal Thomas. Sinon,
on serait moins bon.
Odile Roy a aimé Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi, un pur bonheur, rire et larmes, acteur subtil, humour, légèreté, profondeur, tais-toi Pierre, jeu avec le spectateur, Tchekhov n'est pas loin, c'est vrai, la langue très, très italienne, très merveilleusement mêlée au français. Quant à Kevin Bernard de Draveil, lui, il est très en colère. Cher masque, chère plume, quand vous avez commencé la présentation des Estivants, ma femme me dit, Bruni Tedeschi a tellement la carte auprès de Jérôme Garcin, Sophie Avon et Michel Simon, que je te parie qu'ils vont en dire du bien. Je lui réponds non, impossible. C'est vraiment trop nul. Si c'est le cas, je t'invite dans un resto gastronomique. Je ne pensais pas une seconde risquer quoi que ce soit. Si vous avez une adresse à me recommander, n'hésitez pas. Allez, et pour finir, on a reçu plein de poèmes cette semaine sur le masque. Alors, je vais en garder pour la prochaine, mais là, je vous en lis un ce soir. Il est signé Étienne Duvivier de Saint-Maur-des-Fossés. Je l'aime beaucoup. Contre le spleen, le masque. Quand dimanche en soirée pèse comme une enclume, dans l'esprit qui étouffe, vaincu par TF1, tu éteins la télé, la radio, tu allumes, au lieu de la malbouffe, tu as un dîner fin. Loin des mondanités des stars et de leurs frasques, ils jugent l'œuvre d'art, parfois font son destin. On peut les écouter de Brest à Villeneuve-d'Ascq. Avec fougue, ils séparent le diamant du crottin. Bien faite, la critique est un joyeux festin. Dans la ronde maison, sonnons corne de brume. Élogieux au caustique, quel heureux baratin. Ensemble, célébrons le masque et cette plume. Pas mal, hein, quand même. Pas mal. Et encore, je n'ai pas lu intégralement parce qu'il était un peu long. Mais voilà, merci monsieur Étienne Duvivier. Et il y en aura un la fois prochaine. Allez, grâce à Dieu, le film Choc de François Ozon avec François Martouret dans le rôle du cardinal Barbarin, Bernard Verlet qui endosse courageusement, je dois l'avouer, la soutane du père Bernard Prénat. Et dans le rôle des victimes, Melville Poupeau, Denis Ménochet, Swann Arlo, Eric Caravaca, un film de 2h15 qui s'ouvre par un plan œcuménique céleste, en habit de lumière, coiffé d'une mitre blanche, le primat des Gaules bénit la bonne ville de Lyon depuis la basilique de Fourvière. La suite, eh bien, elle est moins belle. Le premier à briser le silence, c'est Alexandre, c'est Melville Poupeau, catholique pratiquant, père de famille, qui veut demander des comptes au père Prénat, qui a abusé de lui autrefois et dont il apprend qu'il officie toujours auprès des enfants. Et puis François, Emmanuel, Gilles et les autres vont rejoindre Alexandre dans son combat contre le prêtre pédophile et créer l'association La Parole Libérée. Mais le père Prénat, ben, il ne vacille pas et le cardinal Barbarin, vous le savez, et si j'ose dire, s'en lave les mains et dit même d'ailleurs dans le film d'une voix onctueuse, selon notre Seigneur, il faut aimer les enfants. Pas trop, évidemment. Il faudra du temps pour que le scandale éclate au grand jour et que le traumatisme des victimes soit reconnu. Je précise quand même que ce film, eh bien, en amont, le cinéaste de Oui Femmes a voulu effectuer un vrai travail de documentariste, c'est-à-dire que c'est nourri de choses tout à fait vraies. Le nom de Barbarin, le nom de Prénat y sont. Les noms, en revanche, des victimes sont légèrement modifiés. Pierre.
Bah, c'est une vraie, vraie réussite. Je pourrais presque dire que c'est une réussite à l'américaine pour moi.
Absolument.
Et c'est pas une méchanceté que je dis là. C'est-à-dire que c'est la force du cinéma américain.
C'est ce qu'ils savent faire.
C'est ce qu'ils savent très bien faire. C'est à prendre un dossier, le fouiller jusqu'au bout. Et ce que Ozon a fait, c'est vraiment prendre des personnages. Ce qui est très beau dans le film, c'est que les trois principaux personnages qui portent plainte sont différenciés à chaque fois. C'est-à-dire que chacun a presque sa lumière, si j'ose dire, mais aussi son dialogue. C'est-à-dire que c'est très fouillé au point de vue psychologie, au point de vue dialogue et tout. Et c'est vraiment ce que les Américains savent faire encore, mais qu'ils savent de moins en moins faire bien, et lui, il le réussit parfaitement. Donc moi, je trouve que c'est un film parfait, parce qu'il y a une tension constante qui, jusqu'au dernier moment, est tout à fait intense. Alors, si je pouvais faire un toute petite réserve.
C'est les flashbacks.
C'est les flashbacks.
Oui.
C'est parce que vraiment, je crois savoir qu'il y tient beaucoup.
Il faut expliquer que les flashbacks montrent de manière très pudique et très elliptique les scènes, évidemment, d'abus d'enfants.
Mais c'est juste amorcé. On peut dire qu'il y a quelques gestes. Mais je pense que François Ozon y tient beaucoup parce qu'il l'a répété plusieurs fois. C'était pour mettre les spectateurs vraiment face à l'horreur. Il me semble que sa réussite de mise en scène était tellement forte qu'au contraire, ça brise un tout petit peu la tension et c'était vraiment inutile. Mais à part ça, c'est chapeau.
D'ailleurs, il faut quand même préciser qu'on parle ce soir de ce film qui a failli ne pas sortir puisqu'il y avait deux actions en justice qui tentaient d'empêcher sa projection. Charlotte.
Oui, évidemment, je rejoins mon ami. C'est certainement un des plus grands films français de l'année. C'est un grand film en ce sens qu'il arrive merveilleusement à mêler l'intime et le politique. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel on suit des trajectoires intimes mais traversées par un propos politique. Et comment aussi il passe de l'individualité au collectif, puisque les trois protagonistes principaux vont se libérer donc de cette parole, d'où le nom de leur association, La Parole Libérée.
Oui, il y en a même quatre d'ailleurs.
Il y en a quatre, effectivement, le personnage de Caravaca, et on connaît un peu moins sa vie, on va dire, que les trois autres. Mais en tout cas, comment la force du collectif va les transcender. Ils ont chacun des motivations différentes aussi, ce qui est extrêmement intéressant, parce que du coup, ça ouvre le spectre de toutes les douleurs, toutes les failles qu'ils ont en eux et tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir quand on est victime de tels abus. Et là où je trouve le film absolument passionnant, c'est qu'il montre aussi les temporalités différentes. C'est-à-dire que une fois que la parole est libérée chez une victime, il est porté dans une espèce d'urgence maintenant d'action qui n'est pas la même temporalité que la judiciaire, voire même religieuse, puisqu'il va s'agir aussi de toute l'instruction, on va dire, interne. Et là, ça se confronte, et c'est absolument passionnant, avec tous ces thèmes de prescription, de pardon, qui traversent le film. La mise en scène est assez discrète, elle n'est pas ostentatoire, et pourtant, elle est là, le film est tenu de bout en bout. Elle est magnifique et des acteurs, mais ces acteurs sont absolument déments jusque dans les rôles secondaires.
Je refélicite Bernard Verlet,
absolument,
qui joue y compris des scènes avec des gestes jusqu'au bout. Il continue à s'accommoder très bien des méfaits qu'il a signés. Daniel.
Oui, c'est un film bouleversant et très extraordinaire, on pourrait dire, dans la filmographie de François Ozon, qui est d'un éclectisme.
On est très loin de Potiche.
Ah, on est loin de Huit Femmes et de Potiche. Mais le mystère, le non-dit ont été aussi, il a fait 17 films en 20 ans, bon. Mais là, tout à coup, il se hausse au niveau de ce qu'il a à dire, avec une sobriété, avec une volonté d'aller là où il veut aller. Et c'est absolument extraordinaire, ces trois portraits d'hommes, et qui sont, sauf Swen Arlo, qui est encore un peu, disons, déglingué, mais qui va justement trouver...
Et dont la mère est Josiane Balasko.
Magnifique apparition. Magnifique apparition de Josiane Balasko. Ouais. Mais et qui, lui, va trouver finalement sa renaissance dans cette parole libérée. Et ces trois portraits d'hommes, avec ces trois acteurs, en effet, remarquables, tous les trois sont inouïs, et vraiment le propos, alors effectivement, dans cette actualité qui est celle-ci, au moment là...
Oui, alors, il faut dire quand même, il faut rappeler que quand il a fait ce film et quand il l'a terminé, il ne pensait pas évidemment que son calendrier de cinéaste se heurterait au calendrier judiciaire, puisque l'affaire Prénat n'est pas finie d'être jugée.
Voilà, et au moment où le pape réunit tous ses cardinaux pour dire « c'est pas bien tout ça », bon, c'est extraordinaire, la connexion avec l'actualité, et franchement, voilà, les noms, moi, je veux dire, quand on voit le film et qu'on entend Monseigneur Barbarin et le père Prénat, on est suffoqué et enchanté, vraiment, et ému.
Xavier.
C'est un grand film. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un documentaire? La matière se suffisait à elle-même.
C'est ce qu'il voulait faire au début.
C'est ce qu'il voulait faire au début, c'est ce qu'il dit absolument. Sauf que la force de la fiction, avec beaucoup de guillemets, puisque tu l'as rappelé, les noms sont vrais, que les victimes, on a changé très légèrement les noms, mais qu'elles ressemblent énormément aux vraies victimes, permet à François Ozon d'avoir un relief dans le récit, dans le scénario et dans la mise en scène, parce que les deux sont intimement liés de façon très subtile. C'est-à-dire que, d'abord, il y a trois façons de ne pas s'en remettre, disons les choses.
Voilà,
il y a Melville Poupeau qui surjoue son catholicisme, sa foi, et elle est sincère, elle est légitime. Voilà, c'est un peu la caricature de la famille bourgeoise, lyonnaise, catholique. Mais en même temps, le personnage a une vraie étoffe, il va la chercher, il va fouiller ses failles. Il y a Dominochet qui semble avoir oublié, qui semble s'être remis de tout cela, et en fait, finalement, qui n'a fait couvrir comme ça d'un voile un peu pudique le traumatisme qui était là. Et Denis Ménochet, alors faut quand même que j'ai une petite histoire avec Denis Ménochet et le masque. J'ai traumatisé la maman de Denis Ménochet la
pourquoi
dernière fois, parce que tu m'avais demandé pourquoi il jouait dans Marie-Madeleine, et je t'avais répondu des problèmes de fin de mois. Et elle a appelé Denis Ménochet à l'issue de l'émission en lui disant, tu sais, on peut t'aider si tu veux. Non, alors, je suis désolé, madame Ménochet, j'ai fait un mauvais jeu de mots, votre fils est un acteur extraordinaire, et il le prouve encore, et je ne crois pas
qu'on a encore loué dimanche dernier dans Jusqu'à la garde.
Et il est formidable parce qu'il a une nuance, il a une faille, alors que c'est un corps plutôt massif. Parce que les corps, c'est aussi cela. Et Swen Arlo parachève magnifiquement cette démonstration. C'est des corps aussi.
Qui est terrible, le corps de Swen Arlo.
Mais les trois.
Est abîmé partout.
Est abîmé, absolument, voilà. Et du coup, cette correspondance, cette manière de raconter le récit, de partir de ce catholique jusqu'à Swen Arlo, qui effectivement est détruit et qui ne s'est pas encore reconstruit, et qui peut-être n'y arrivera jamais, est bouleversant. Et puis ça lui permet d'écrire à François Ozon les personnages secondaires. Aurélia Petit, immense comédienne, trop rarement utilisée dans le cinéma français, qui joue l'épouse de Melville Poupeau. Elle apporte aussi les parents, Hélène Vincent. Donc un relief, une façon dont le drame a aussi rejailli sur la sphère intime à l'époque et encore aujourd'hui. C'est un film d'une grande intelligence. Et tout ce que le scénario apporte, la mise en scène va au contraire le parachever, le continuer avec beaucoup de subtilité. Il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucune accusation.
Et il y a peu de colère, c'est-à-dire la lame de fond, c'est que c'est, le film n'est pas du tout ivre de colère. Il y a une détermination
à ce que justice soit faite. Il le dit, il le répète, y compris dans le film. Mais il faut... Ce n'est pas un film contre l'Église, mais pour l'Église. Ouais. Grâce à Dieu de François Ozon, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ? Oui, dans le théâtre de l'Alliance française. Un micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Comme les critiques ici, je suis assez d'accord avec eux. C'est-à-dire que je trouvais le film vraiment très bon. Les acteurs sont excellents, notamment Swan Harlow. J'apporterai quand même deux petites choses un petit peu négatives. Pierre Murat a parlé effectivement des flashbacks. Moi, je trouve que c'est assez grossier. Et
ils sont peu nombreux, hein.
Ils sont peu nombreux, mais je trouve que voilà, ça manque. Oui, c'est un petit peu embarrassant, parce que c'est du genre vraiment regardez le gros monsieur avec des lunettes noires, il est méchant. C'est pas très très subtil. Et puis bon, on parlait de la forme documentaire. Moi, je trouve que justement, on pourrait dire que par le fait que cette fiction dramatise la réalité, eh bien du coup, on perd quelque chose en authenticité. Je pense qu'il y a un film qui sort en avril qui s'appelle M de Yolande Zuberman, qui parle aussi de la pédophilie, mais cette fois-ci dans la communauté juive orthodoxe, et qui est justement à côté de ça, quand on compare à un propos qui est beaucoup plus radical et qui est aussi intéressant. Voilà. Et puis une toute petite chose à noter, qui est très marrante, c'est que je ne vais pas dire de bêtises, mais Bernard Verlet jouait aussi dans un Buñuel, La Voie lactée, le rôle de Jésus-Christ. Voilà, donc de prêtre, enfin de Jésus-Christ à prêtre pédophile, il n'y a qu'un pas.
Comme quoi, il y a un suivi. merci pour votre intervention.
On te laisse vraiment la responsabilité de tes propos.
Intervention sur ce film, non. Vice du trait démocrate, Adam McKay avec Christiane Bell. Qui a, l'a-t-on assez dit, grossi de 20 kilos, ça se voit dans le film. Hein. Dans le rôle du vice-président Dick Cheney, Steve Carell dans celui de Donald Rumsfeld, et Sam Rockwell qui campe un très mimétique George W. Bush, un film de 2h12 qui appartient au genre biopic, mais version satirique et le mot est faible. On y voit le pépère Dick Cheney gravir les échelons du pouvoir, et puis une fois élu président, devenir une sorte de docteur Mabuse entre 2001 et 2009. D'abord, il prend très vite la main sur le président Bush, dont McKay fait d'ailleurs un idiot total. Enfin, il est encore plus idiot dans le film que ce qu'on imagine dans la réalité. Ensuite, il l'exfiltre, Bush, après le 11 septembre, pour mieux prendre son fauteuil. Il impose ensuite une politique qu'on connaît, de droite dure. Il déclenche la guerre en Irak au prétexte fameuse fake news que Saddam Hussein détiendrait des armes de destruction massive. Quant à l'homme Cheney, bah c'est une sorte de miraculé. On le voit dans le film quand même 5-6 fois faire des infarctus à répétition. D'ailleurs, à la fin, il s'en fout, dit « Tiens, il faut que j'aille à l'hôpital », comme si c'était un truc tout banal, qui pêche très bien à la mouche et qui doit s'accommoder. Et c'est peut-être un moment, le seul moment un peu touchant du film, je trouve, d'une fille dont l'homosexualité, évidemment, dérange son parcours idéologique. Je le dis à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, ne partez pas avant la fin du générique, puisque vous aurez des surprises, mais jusqu'au bout du générique. Xavier.
Alors, on peut pas dire que le film pêche à la mouche. Ça n'est pas très subtil dans sa manière d'attraper.
Mais c'est efficace.
C'est lourd, c'est grossier, ça tâche, mais ça fait un bien fou.
Ah, bon.
Non, mais moi, j'adore le film. On peut pas dire que c'est une satire d'une grande délicatesse. Il y va, c'est à la tractopelle, hein, c'est au rouleau compresseur. C'est le mariage assez improbable, mais tout à fait savoureux, entre Robert Altman de l'époque MASH et de Michael Moore. C'est-à-dire que le but est atteint et tous les moyens sont bons. C'est jubilatoire en termes d'humour, méchant. Vraiment, ça fait un bien fou. Et puis, mine de rien, derrière le rire, derrière la satire, derrière le pamphlet, il y a régulièrement une ou deux choses. Tu parlais effectivement de la scène où il retourne, entre guillemets, George Bush Junior, au sens non biblique du terme, je vous rassure. La scène est remarquablement écrite, c'est-à-dire qu'il est en train de tester les failles de cet imbécile et il va pouvoir commencer justement à placer ses pions et savoir où est-ce qu'il pourra justement avoir sur cet imbécile une espèce comme ça de pouvoir manipulateur. Et puis, sur l'homosexualité de sa fille...
Qui est la fin du film. Hein.
Qui est la fin du film et qui est extrêmement intéressant parce qu'au début, il se dit « chouette ». Je vais un petit peu m'attraper la communauté LGBT, je vais avoir l'air un peu ouvert et tout ça. Puis au moment où vraiment, effectivement...
Enfin, il se dit, en même temps, j'arrête ma carrière politique. Hein.
Oui, absolument. Mais au moment où il en a plus besoin, il va la larguer. Et ça, c'est très beau dans le film. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment très émouvant où, effectivement, après avoir soutenu sa fille, il va un peu la mettre bord cadre parce que, justement, elle va gêner. Et je trouve que sur La Machine politique, c'est quand même un film d'horreur qui ne se finit pas. C'est-à-dire que, comme à la fin de Freddy, le monstre est encore là, le monstre est encore un pouvoir de nuisance absolument inouï aux États-Unis. On lui doit vraiment les 20 dernières années de la politique américaine hégémonique, dangereuse, au Moyen-Orient, un peu partout. Et en même temps, avec ce côté bon père de famille, comme ça, rassurant, toute l'ambiguïté, toute la noirceur du film est là. Alors, encore une fois, c'est très drôle, c'est très pamphlétaire, et en même temps, c'est indispensable et salutaire.
Daniel.
Oui, c'est féroce et on est enchanté que ça le soit. Voilà. Moi, je trouve que Christian Bale est quand même
Il est incroyable.
Il est incroyable. Et puis, tout à coup, je me suis dit, je le connais depuis longtemps, celui-là. Il avait 13 ans. C'était dans l'Empire du Soleil de Spielberg. Et il n'a pas arrêté de maigrir, de grossir, de maigrir, de grossir. Et puis là, il a regrossi. Et franchement, ce qu'il fait, c'est pas une performance. C'est une incarnation. Il est Dick Cheney. Et c'est vrai que c'est un peu un film d'horreur parce que c'est 40 ans de la vie politique américaine et que c'est pas fini et qu'on pense à Trump et que ça, c'est quand même la qualité.
Alors là-bas, aux États-Unis, c'est considéré évidemment comme un film caricatural.
On sent vraiment évidemment que...
De l'Atlantique, on trouve ça assez juste.
Mais enfin, quand même, 8 nominations aux Oscars.
Oui. Pierre?
Tout ce que vous avez dit est évidemment vrai. C'est-à-dire que c'est le côté malin l'emporte chez moi. C'est-à-dire que du réalisateur. Parce que visiblement, il s'est dit, pourtant, Dick Cheney, comment je vais faire pour prendre un personnage aussi moche, moralement ennuyeux, en plus, totalement
méconnu. Et puis méconnu.
Et méconnu.
C'est pas Bush, ni...
Qu'est-ce que je fais? Alors, il a dû mettre toute sa biographie sur des feuilles de papier comme ça, disant, maintenant, il faut que je mette un petit peu d'intérêt là-dedans, sinon ça va être mortel d'ennui. Et il y est, en effet, arrivé. Il y est arrivé, mais en utilisant de très grosse ficelle.
Il arrive à faire un film fun à partir d'un personnage atrocement ennuyeux.
Xavier a donné une référence qui me paraît tout à fait juste et peut-être à mes yeux écrasante, c'est Robert Altman. Parce que Altman faisait des films sur l'Amérique qui étaient d'une causticité absolue, mais il y avait une élégance de la forme, et là, c'est un petit peu du dessin animé.
Mais il ne triche pas sur le brûlot. Il veut faire un brûlot. Mais d'accord.
Mais en effet, c'est Michael Moore en fiction. Moi, personnellement, j'ai plus de tendresse pour des grands cinéastes comme Altman, qui étaient au moins aussi féroces sur l'Amérique il y a 20 ans, mais qui, en plus, étaient doués d'un talent de mise en scène extraordinaire. Là, c'est malin. Et c'est très bien.
Charlotte.
C'est déjà pas mal d'être malin. Oui. Et puis, si ça peut ouvrir le film à un public d'ados, de jeunes adultes, enfin, parce que le film, il est quand même vraiment jouissif. Effectivement, c'est fun. Il y a une invention dans la narration.
Oui, y compris d'ailleurs techniquement, parce qu'on voit apparaître sur l'écran un tas de choses. Tout d'un coup, comme des dessins animés, comme des pastilles, comme des bulles.
Voilà. Et puis, tout d'un coup, il se parle en vers avec du Shakespeare. Et puis, il y a un narrateur en voix off qui change au cours du film ou qui est dans des situations que vous découvrirez, et c'est quand même très drôle ce qu'il fait à la fin avec ce narrateur. Tu te tais, s'il te plaît, Pierre.
S'il te plaît, Pierre.
Il y a beaucoup de malice, d'ironie.
On teste des idées politiques autour d'un panel d'Américains moyens, quoi. Et c'est dingue, et je suis sûr que ça existe, en plus.
Et là où
ça
le film, je trouve, vrai, assez fort, c'est qu'il est à la fois glaçant, parce qu'il montre ce côté du personnage qui est extrêmement opportuniste et qui a une patience intéressée. Le mec, le Dick Cheney, il est là, tapis dans l'ombre, il bouge pas, il sait que son heure va arriver, il attend des années, et dès qu'il y a une petite faille, hop, il y va et c'est gagné. Donc c'est assez glaçant sur la politique interne effectivement américaine, et en même temps, on l'a dit, extrêmement drôle, assez jouissif, le film est nerveux, puis bon voilà, Christian Bale...
Et rester jusqu'au bout,
du générique.
Vice d'Adam McKay, pas de réaction sur ce film?
Si, là.
Deux réactions, monsieur, bonsoir, madame.
Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Très, très rapidement, je crois qu'il faut retenir la prestation de Christian Bale, qui est vraiment un grand comédien. Et puis alors, un petit conseil, vous parliez des jeunes gens, je crois qu'on s'approche des examens partiels ou des examens de fin d'année petit à petit. Pour les passionnés de droit constitutionnel, relire effectivement la Constitution des États-Unis. Et le 25e amendement, c'est depuis 1967 que le vice-président a plus de pouvoir. Vous savez qu'avant, Theodore Roosevelt disait « c'est un marchepied pour l'oubli ». Et depuis 1967, le vice-président a de plus en plus de pouvoir. Malheureusement, c'est tombé sur Dick Cheney et s'est ennuyé par ce qui s'est passé en Irak.
Merci
et on en paye encore les conséquences.
Pour votre intervention, c'est fâcheux. À votre côté, je crois, une autre intervention. Madame, bonsoir.
Bonsoir. J'étais pas tout à fait d'accord avec vous, parce que pour moi, j'ai vu un film qui manquait d'intelligence et de profondeur sur un sujet aussi important et sérieux. Un traité caricatural avec des effets de style qui brouillent le message, justement. Et on a l'impression de se retrouver devant une partie de cartes à laquelle le réalisateur ne sait pas jouer, alors qu'il a une très belle main. On en ressort, enfin en tout cas, j'en suis ressortie très très frustrée.
Eh bien, merci pour ces interventions sur, je le rappelle, Vice de Adam McKay. On reste sur le même continent avec La chute de l'Empire américain, un film du vétéran québécois Denis Arcand, 77 ans, avec Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin, Rémi Girard, à Montréal, un jeune docteur en philo à lunettes, et à principe, c'est Pierre-Paul Daous, qui est joué par Alexandre Landry, est obligé d'être chauffeur-livreur pour gagner sa vie. Un jour, il est témoin d'un braquage sanglant dans une blanchisserie, et il ne trouve rien de mieux que de repartir avec deux sacs remplis de millions de dollars. À partir de ce moment, Pierre-Paul cesse d'être philosophe. Après tout, se dit-il dans le film, Sartre n'a-t-il pas défendu Pol Pot et Althusser étrangler sa femme? Et donc, il choisit très naturellement de dilapider et de placer sa nouvelle fortune. Il s'offre une call girl, Aspasie, qui s'appelle Marie-Pierre Morin, ça c'est la comédienne. Il enrôle un ex-tolard doué pour le blanchiment et il en appelle un avocat spécialisé dans l'évasion fiscale. Et pour pas éveiller les soupçons des flics, le soir il vient en aide au SDF de Montréal. C'est donc la suite très improbable, je vois pas le rapport, hein, des invasions barbares et du déclin de l'Empire américain, avec sur le thème de l'argent roi, tous les clichés qu'on peut attendre. Il y a plein de bons dialogues, ça manque juste de cinéma. Xavier ?
Alors, je te sais gré d'avoir trouvé des bons dialogues. À quoi sert ce film ? C'est-à-dire que pendant 2 heures interminables et 10 minutes, comme par hasard, tu n'as pas cité la durée.
2h09.
Alors habituellement, tu mets un tout petit peu au détriment des films. Le film ne
Qu'est-ce
sert
que j'ai
à
pas
rien.
La durée du film.
J'ai me dis, est-ce qu'il fallait vraiment 2h15 pour raconter une telle histoire? Non, alors là, même pas 10 minutes, de toute façon. C'est quand même un très mauvais film. Mou du genou, j'avais l'impression d'être bloqué devant un téléviseur le dimanche soir à regarder de l'inspecteur Barnaby, tellement c'est une espèce de mollasse.
C'est bien comme Barnaby.
Ça. Explicatif. Alors, on nous dit que l'argent, c'est pas bien. Ah ben ça, merci, j'étais content d'être venu m'être déplacé pour cela. Les personnages sont archétypaux, mais à un point caricatural. C'est-à-dire, lui, le prof de philo, qui bégaye chaque fois qu'il voit Aspasie. Aspasie n'a pas de vertu, mais elle a de la morale
quand même. Elle est très belle.
Parce qu'elle est jolie. Bah ouais, mais quand tu prends deux sacs, effectivement, bourrés de dollars américains ou dollars canadiens, tu vas pas te taper une moche, hein, tu vas te taper une belle quand même. Ben non, je veux dire, soyons cyniques, le film d'ailleurs ne l'est jamais. Et alors, on a des scènes interminables pour nous expliquer, il y a un moment quand même, c'est très didactique, comment est-ce qu'on transfère de l'argent pour le blanchir et pour éviter...
Ça, c'est à la fin du film.
C'est à la fin du film, et alors moi j'ai l'impression d'être bloqué devant le concours de l'Eurovision. Allô, bonjour Londres, je voudrais vous envoyer 2 milliards de dollars. Oui, mais pas de problème, envoyez-les nous. Ah, merci. Londres, ici Tokyo. Tokyo, est-ce que vous pouvez m'envoyer 2 milliards? Et alors, on voit une petite carte sur laquelle on a tracé des traits comme ça pour bien nous montrer comment l'argent véhicule dans le monde entier pour nous prouver que, effectivement, vous pouvez noyer le poisson. Et empêcher que les écrans...
Sauf qu'il y a, je suis d'accord, il y a, c'est pas du grand
c'est
cinéma,
pas, c'est,
il y a une légèreté quand même, non, dans le...
Une légèreté dans la mise en scène. Oh non, c'est pesant, c'est lourd.
Dans ça le dialogue, au moins, Xavier, tu peux accorder ça au film.
Non, n'importe quoi. Vous pouvez pas recommander aux gens d'aller voir ce truc-là,
mais
quand
bien
même.
Sûr que si.
C'est une mollasson. On peut pas les en empêcher, en tout cas.
Oui, en plus, oui.
Écoute.
Alors, Pierre, Charlotte?
Non, mais je trouve Xavier très sévère. C'est-à-dire, je te rejoins sur le petit coup de mou parce que effectivement, le film ne tient pas ses 2 heures.
2h09.
2h09, voilà.
Mais là, on peut partir avant le générique, il se passera rien.
Non, ça voilà. C'est vrai.
Mais c'est rien passé avant. On donc, économise. De toute façon, c'est
l'avantage. On économise le générique.
On a pris de l'avance.
Oui, et puis voilà, cette romance est pas très intéressante. En revanche, je trouve qu'il y a quand même des personnages qui sont assez bien dessinés. Les comédiens sont vachement bien. Il y a ce petit charme de l'accent quand même québécois avec.
Oui.
Des dialogues
tout est compréhensible,
assez drôles.
Il faut le dire, parce qu'il y a, y a des films québécois
et
difficiles
non
à comprendre.
Sous-titrés, parce qu'il y a parfois des films
Absolument.
Québécois qui sont sous-titrés en français, ce qui n'est pas le cas là. Il y a des dialogues assez drôles. Alors oui, effectivement, l'argent, c'est pas bien, mais on part quand même sur une base de polar. Ça dérive vers la comédie et avec un
non,
fond social.
Là,
moi, je suis moins dur que lui, mais c'est pas un polar, non.
Au début, non mais.
Si, c'est un braquage.
C'est un braquage. Voilà. Il y a un petit côté quand même un peu braquage, même si on sait que ça va être drôle.
Oui, même.
Bon, bref. Enfin, en tout cas, ça danse des claquettes comme ça sur ces différents registres. Moi, je trouve pas ça désagréable du tout. En une heure et demie, c'était bouclé, c'est sûr. Mais il y a quand même une petite patte arcane qui est vraiment pas désagréable.
Alors, Pierre, tu n'es pas d'accord ?
Ah, pas du tout. Je trouve ça vraiment très, très bien. Alors là, un film jubilatoire.
Très, très bien.
Ah oui, c'est très bien. Mais oui, mais moi, j'ai un faible pour Denis Arcand, qui est, je crois savoir, considéré comme un ringard au Québec. Mais moi, je m'en fous.
Non. Ce film a été accueilli sous les éloges.
Oui, mais généralement, il est considéré comme un vieux con, quoi. Et moi, j'ai une passion pour un. Pas celui-là, mais
pour
un
les vieux
film qui s'appelle Les. Pardon.
Non, tu dis j'ai une passion pour les vieux cons.
Non. Quand il est vieux con et s'il ressemble à Denis Arcand, oui, j'ai une passion pour les vieux cons. Mais je trouve que d'abord le dialogue est absolument splendide, les personnages, mais non seulement le jeune, parce que ce qui est formidable, c'est que c'est un naïf, c'est un candide, c'est presque l'idiot de Dostoïevski, c'est-à-dire qu'il est
trop intelligent pour être adapté à ce monde.
Il est hyper lucide. C'est un simple par rapport à l'argent. Et tout le film, c'est comment un candide va régler et devenir fortuné, riche et savoir gérer l'argent. Donc c'est une fable. Et en plus, le personnage de Rémi Girard,
qui est formidable, qui joue l'ex-taulard qui va s'arranger pour aider à blanchir l'argent, il est formidable.
Mais même ce que tu dis, Xavier, sur les petites flèches qui, mais ça va en deux minutes, c'est-à-dire qu'on nous montre
non,
en effet que
non, non,
mais
t'as si, dû t'endormir,
mais
il y si, en a au moins pour
non,
une
mais
minute
non,
quand
je,
même.
J'ai pas de
très explicatif,
mais
c'est
pas du tout,
mais
ça va très très vite au contraire, et je trouve que c'est un film vraiment jubilatoire. Vous passez un bon moment à aller voir ça, vous savez, c'est drôle comme tout, et alors c'est super écrit et bien en plus.
Ma petite Danielle.
C'est un peu la chute, non pas de l'Empire américain, mais de Denis Arcand. Parce que quand même, ça manque singulièrement de nerfs.
Ah oui.
C'est véritablement, bon, le postulat est assez sympa, effectivement, prof de philo qui se retrouve avec des...
Il n'est pas prof, il est docteur en
philo. Il est doctorant, puis docteur, mais les coursiers, se retrouvent milliardaires, évidemment. Et effectivement, on dit, le fric, c'est pas bien, mais non, le film dit, le fric, c'est très bien. C'est même très, très bien pour un doctorant en philosophie, parce qu'il trouve que vraiment, ça va lui changer sa vie, et que finalement, ne plus être un livreur, mais plutôt milliardaire, c'est pas si mal que ça. Alors, là où, effectivement, je trouve que le film a un petit charme, c'est que on s'attache à ce malfrat d'occasion et qu'on se dit, pourvu qu'il s'en sort, je ne vous dirai pas s'il s'en sort. Mais c'est tellement filmé mollement, c'est tellement paresseux dans le style. Enfin, je veux dire, bon, les films précédents, on parlait du sexe, on parlait de la mort, il y avait quelque chose de nerveux, il y avait quelque chose de fatal.
C'était filmé
là,
pareil, alors vraiment,
non,
les invasions barbares pour qui j'ai une passion, mais c'était filmé pareil.
Non, ça n'était pas filmé pareil, si, je te prie de bien vouloir m'excuser, mon petit Pierrot.
Et donc, c'est
mou.
La chute de l'Empire américain, Denis Arcand... Pas de réaction, non. Pas de docteur en philo pour réagir. Non. Allez, Le Chant du Loup, le premier film de l'ex-diplomate Antonin Baudry, connu pour son scénario de la BD Quai d'Orsay, période Villepin, adapté, vous savez, par Bertrand Tavernier. Et voici qu'il nous propose de passer 2 heures dans un sous-marin nucléaire français. Faut pas être claustro, hein. Chargé de récupérer un commando sur les côtes syriennes, sur fond de guerre froide avec la Russie. Et voici que Chantraide, c'est donc l'oreille d'or du sous-marin, qui est joué par François Civil, repère un son qu'il peine à identifier, ce qui va entraîner des conséquences assez graves, il faut dire. Donc le sous-marin descend, l'angoisse, elle monte. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. Il faut imaginer même qu'il y a un missile atomique qui devrait tomber sur le Moulin Rouge, ce qui est assez embêtant. Avec en uniforme le commandant Reda Kateb, son second, ça on y croit beaucoup, Omar Sy. Et alors le pompon, si j'ose dire... Dans la marine, c'est quand même Mathieu Kassovitz, en amiral commandant la force océanique stratégique. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. Ça a quand même coûté 20 millions d'euros. Et la presse, cette semaine, est unanime. Alors, soit je ne sais plus voir les films, soit je ne sais plus compter, mais dites-moi si... S'il y a un problème, Pierre, est-ce qu'il y a un problème ou pas?
Ah oui, tu as raison, il y a un problème, il y a un problème. Mais moi, ça m'a rajeuni parce que ça m'a rappelé les films qui se jouaient quand j'ai découvert le cinéma, quoi. C'est-à-dire la guerre froide, les méchants russes. Alors, ils sont pas tout à fait méchants, il y a encore plus méchants, oui. Que je ne citerai pas qui est plus méchant que les Russes. Mais enfin, quand même, ils sont pas très nets avec les sous-marins qui sont planqués, masqués, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et puis alors, il y a quand même, c'est un film de mec. C'est-à-dire que la pauvre Paula Baer, qui apparaît dans l'histoire, on ne sait pas comment, enfin si, ce type hyper génial a besoin d'un livre, on ne sait pas très bien pourquoi, il entre dans une librairie, il tombe sur Paula Baer, heureusement, parce qu'elle est ravissante, et là, et donc ils ont une petite histoire ensemble, parce qu'il faut bien...
Elle s'appelle Prairie.
Elle s'appelle Prairie. Et le reste du temps, eh ben, on est là en disant, mais c'est un film qu'il y a 40 ans, on disait sur les forces militaires, enfin c'est un film militariste, quoi, en gros. Je suis sidéré, de voir l'accueil de ce film.
Ah, t'es d'accord, il y a quelque chose de
sidéré. Je trouve que
dans
c'est
dans les
un
journaux
film...
très sérieux et souvent très sévères.
Oui.
Mais oui.
Enfin, peut-être que ça va changer ici ce soir d'ailleurs.
Mais je trouve ça pas si mauvais que ça, mais sans intérêt aucun.
Si. Voilà. Xavier.
Alors moi, je sauverai la dernière partie. Je trouve qu'une fois qu'on a placé le postulat de cette, comme dit Mathieu Kadovis avec un étranglement dans la voix. Mais alors, c'est la Troisième Guerre mondiale. En insistant beaucoup sur le. Une fois qu'on s'est débarrassé d'un scénario stupide qui n'arrête pas de rejeter des couches...
Mais tout le monde dit qu'il est génial parce que c'est diplomatiquement et stratégiquement
sur crédible. La stratégie militaire, c'est vachement intéressant.
C'est un peu nucléaire. Stupide quand même. Hein, pour en arriver à cette espèce d'ersatz de Troisième Guerre mondiale atomique, le scénario ne surfuse rien.
N'importe quel James Bond est mieux construit
mais
que voilà, ça.
Mais enfin. La dernière partie, en revanche, en termes de mise en scène, sur les attaques et tout ça, tient ses promesses, entre guillemets, à 20 millions d'euros.
Mais enfin, il faut y arriver parce que c'est
mais
long.
Mais il faut y arriver.
Aussi,
on a une heure quand même. Ouais. Tapé. Moi, je croyais Mathieu Kadovis, en fait, que c'était un épisode inédit du Bureau des légendes, qui avait infiltré cette espèce de nautilus sous-marin suppositoire. Et en fait, non, pas tant que ça, parce que les autres comédiens ne jouent pas du tout. Le pauvre Elia Kataï et Omar Sy, on a l'impression qu'ils font tout pour disparaître du cadre. Tellement ils sont conscients
de la. Si Omar Sy, il a l'air ravi d'être là, de découvrir ce que c'est.
Il est bien le seul. Moi, je sauverais quand même François Civil, qui a le rôle le plus improbable de l'année. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui. Qui conduit.
Bah, c'est l'oreille d'or.
Voilà, c'est l'oreille d'or. Là, ouais, non, mais je crois que c'est.
Mais c'est vachement important.
C'est un super sous-marin à quatre pales. Mais ça n'existe pas, les sous-marins à quatre pales. Ouais, tais-toi, ta gueule. Je crois que si, quand même. Le tout en gros plan avec des lumières rouges derrière qui clignotent. Parce que, comme dans tous les films de sous-marins, dès que ça clignote, lumière rouge. Vite, on remonte à la surface et on se tire. Mais néanmoins, je trouve que la dernière partie se tient en termes de mise en scène.
T'es gentil, hein, parce que vraiment, c'est pas très très bon non plus. La
ah non, mais
mise en scène par Denis
Arcand, ça aurait été
formidable.
Bah, ça aurait été plus marrant, oui.
Non, mais moi, j'ai eu l'impression de voir un film dans une langue étrangère que je ne connaissais pas, sans sous-titres et pas doublé. J'ai rien compris.
Alors, t'as compris quand même que ça allait sous l'eau.
Ah ouais, il y a des beaux plans d'eau, il y a des beaux, avec des nageurs sous-marins, et voilà. Et alors, il y a l'oreille d'or qui dit, je sais pas si c'est, là, tout à coup, j'ai compris deux phrases. Je ne sais pas si c'est un sous-marin russe ou un bruit de cachalot malade. Ça, j'ai compris. Mais après, ils parlent qu'en chiffres. Donc, je comprends rien. Ils donnent leur position tout le temps. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur position? Mais c'est épouvantable. Je me suis ennuyée, mais à mourir, remontant en surface, s'il vous plaît.
Oh, oui, en plus, encore une fois, si on est un peu claustro...
Eh ben moi, je vous trouve bien dur. Parce que moi, j'ai marché. J'ai nagé avec eux. Bon, quand même, je mets cette romance avec la petite libraire qui n'a mais rien à faire là. C'est vraiment pas bien du tout. Pour le coup, tout ce qui est à l'air libre me convainc pas du tout. Non. En revanche, dans Sous-marin, je trouve que un truc dans le scénario, alors c'est compliqué parce qu'on va pas le révéler, mais moi je trouve ça assez haletant et prenant.
Si tu l'as compris, vraiment, chapeau. Hein.
J'ai totalement compris, j'étais prise par cette histoire de dissuasion nucléaire, parce que c'est quand même un paradoxe, c'est un truc de fou. Les mecs, ils s'entraînent à faire quelque chose dont ils espèrent qu'elle n'arrivera jamais. On est d'accord que lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin, c'est un peu le début de la fin.
Ah, oui.
Mais il y a un truc dans la loi française...
Est-ce qu'à un moment, t'as eu peur?
Mais jamais.
Ah ben si. Quand même, moi je regrette, j'avais jamais vu dans un film une bataille entre un sous-marin et un hélicoptère. Ça, je trouve que cette scène d'action est vachement bien. Mais ouais, Et quand même, sur la fin, je me suis demandé comment ça allait se terminer, cette histoire-là, parce qu'il faut savoir que les ordres de tir sont des ordres irréversibles donnés par le président de la République et il n'y a aucun protocole d'annulation.
Et appliqué par Mathieu Kassovitz.
Voilà. Alors après, sur le casting, je vous rejoins que Omar Sy, capitaine de navire nucléaire, il faut quand même y croire, faire beaucoup d'efforts pour y croire.
Il est commandant en second, pas capitaine.
Second.
Commandant
et je trouve que le rôle de François Civil, qui effectivement est très bien tenu, moi, m'a vachement intéressée. Parce que le son du film est très très bon, que du coup, je jouais un peu avec lui à essayer de deviner les sons qu'il entendait. Et de cette manière-là, le film me faisait penser à La Mécanique de l'ombre. Souvenez-vous, ce polar avec Luzet où tout ne se jouait que par le son, ça devient une sorte de film d'action mentale que je recommande.
En tout cas, pour un militaire, s'appeler Civil, c'est quand même pas mal. C'est donc Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Est-ce qu'il y a des sous-mariniers? Oui, dans la salle. Bonsoir, monsieur, le micro vient vers vous.
Oui, je viens de le voir cet après-midi, je suis absolument en désaccord avec vous. Les 25 premières minutes sont formidables. C'est question film. Justement, il faut pas être ridicule. Hein. Je pense que vous n'êtes pas spécialiste militaire, moi non plus. Mais je pense que ça se passe réellement dans la réalité comme ça. Et c'est très haletant. C'est un film à grand spectacle, moi, je trouve. Et c'est un très bon moment. Donc, je suis en désaccord, mais complet, total avec ce que vous
mais
faites.
Bon,
et c'est facile
défendu.
De se moquer. Oui, enfin, c'est peut-être les 20 millions qui vous font rêver ou envier, mais bon.
Mais en tout cas, il
merci en tout cas hein, de votre point de vue, de votre sincérité, et puis aussi de votre intrépidité face aux critiques. Pas d'autres réactions? Non. Allez, vite, vite, il ne reste pas beaucoup de temps. Deux Fils, le premier film de l'acteur Félix Moati, qui était épatant. Je vous souviens dans Gaspard va au mariage, avec Benoît Poulvord, Vincent Lacoste, Mathieu Capella, Anaïs de Moustier, un film qui commence dans un magasin de pompes funèbres, où Joseph, Benoît Poulvord, qui est un médecin déprimé, très déprimé, essaye donc le cercueil où il va coucher son frère qui vient de mourir. Et puis très vite, Joseph décide de tout abandonner, donc il arrête le stéthoscope et il passe à la plume. Il se croit écrivain, il m'a même d'ailleurs donné dans une librairie du 11e une lecture publique qui est pathétique, quoi, devant personne. Joseph, il a deux fils aussi mégalomanes que lui. Il y a l'aîné, Joachim, c'est Vincent Lacoste, qui étudie la psychiatrie et qui se répète qu'il sera bientôt le plus grand psychanalyste du monde. Et puis le cadet, Yvan, Mathieu Capella, 13 ans. Petit prodige, celui-là, hein, qui s'initie en même temps au mysticisme et à l'érotisme, puisqu'il drague en lisant l'Ancien Testament. Les trois sont pareillement ridicules et touchants, et je trouve que c'est un éloge assez Woody Allenien du clan familial. Je précise que le scénario est coécrit par une romancière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florence Sevoz, et qui avait écrit « Le garçon inclassable ». Donc, Deux Fils de Félix Moati, Daniel.
C'est totalement touchant. Voilà, c'est un film de résilience, d'empathie pour les cabossés un petit peu. C'est sur les liens familiaux qu'une justesse s'est jouée de façon totalement subtile. C'est vraiment, voilà, on est dans cette famille, on se dit ça va pas fort. Ouh là là, ça ne va pas fort du tout. Le cadet qui commence à boire et puis tout le monde picole un peu et puis tout le monde va mal et puis tout le monde va mieux et puis on y croit et puis on est avec eux. Et c'est ça, c'est un premier film qui est exactement comme ce qu'on peut souhaiter de mieux un premier film d'un Moati de 28 ans. Voilà.
Pierrot?
Je suis moins enthousiaste. Je trouve que le personnage de Paul Vord est formidable. Vraiment, lui, le personnage est splendide. Vraiment, il est touchant, émouvant, drôle. Il rate tout. On dit qu'il voudrait être Tolstoï, il n'est pas. Enfin, tout ce que c'est, il est magnifique.
Même son éditeur est gêné, là.
Oui, mais la confession qu'il fait devant ses fils une nuit est bouleversante et là, presque tchékovienne. En revanche, les deux fils, moi, j'y suis pas du tout convaincu. Je trouve que c'est très surécrit. J'y crois pas du tout. Lacoste commence à m'embêter beaucoup. Et,
Je suis un peu d'accord. Il y a trop de Lacoste, dans les Lacoste.
Et puis, c'est un peu précieux.
Surtout le même.
C'est un peu précieux. Et juste pour dire, on n'a pas de conseils à donner aux cinéastes, mais si peut-être le réalisateur pouvait voir d'autres films que ceux qu'il voit pour apprendre qu'on ne peut ne pas filmer caméra à l'épaule et agiter sa caméra pour susciter le trouble. Voilà, ça,
ouais, un peu c'est attention.
Si, un
premier film.
Voilà, donc, d'accord. Mais enfin, c'est pas plus
Charlotte. C'est un premier film extrêmement prometteur et effectivement très sensible, très attachant, très juste, beaucoup de charme. Il y a une attention attention à chaque personnage et quelque chose de très touchant dans cette solidarité familiale. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des trous d'air dans le scénario assez dingues et qui ne sont pas du tout comblés par la belle musique de Limousine qu'on entend un peu du début à la fin. Donc au bout d'un moment, moi, c'est un gentil ennui qui s'est installé. Je trouve que le film manque un peu d'enjeu, de nerfs. Et encore une fois, Vincent Lacoste, aussi bien soit-il, on l'a vu 15 fois dans ce registre-là, ça commence à nous gonfler un peu.
Xavier. Moi, je suis du côté de Daniel, j'aime beaucoup le film, je le trouve très jazzy, très urbain, très dans la rupture, très dans le délié, donc déjà la forme me convainc vraiment. Il raconte un triangle familial.
Parce que la mère n'est pas là,
voilà. Elle n'est jamais là. Voilà. Mais en même temps, il a le bon goût d'avoir un vrai regard, qui est celui du dernier, d'Yvan, qui voit ses deux modèles, son père et son frère, s'effondrer devant ses yeux. Le père qui a décidé de tout arrêter pour devenir un écrivain qu'il ne sera jamais, et le frère qui ne passe toujours pas sa thèse en psychiatrie et qui a beau être sûr de son avenir, rien du tout. Et ce gamin essaye de compenser par le mysticisme, par la drague.
Il se réfugie dans les églises.
Il se réfugie. Voilà, il est autonome et en même temps, il est désespéré de voir que les deux hommes de sa vie, entre guillemets, ne sont plus du tout à la hauteur des espoirs. Et je trouve le film très fin et très intelligent là-dessus. Il y a des creux, il y a des béances, mais elles font partie aussi de la musique du film.
Je suis bien d'accord.
On peut citer Anaïs de Moustier.
Félix Moati. J'avais inscrit aussi Destroyer, le polar de l'américaine Karine Kusama, avec une Nicole Kidman que je n'ai pas reconnue, dans le rôle de l'inspectrice Irène Bell, qui n'est pas au top. Hein.
Elle a... Non, c'est la perruque.
Alors, je ne sais pas si c'est l'alcool, le désespoir. En tout cas, voilà. Bon, elle reçoit un billet de $100 maculé d'encre antivol et tout le passé revient. Et c'est en fait le leader du gang qu'elle a infiltré autrefois qui est aujourd'hui sa propre menace. Mais voilà, elle est très perruquée, très défigurée. Je pense que c'était ce qu'on lui avait demandé de faire. Tu voulais l'heure, c'est 2h03. quelques mots rapidement, Xavier.
C'est très mauvais, c'est vraiment le polar inutile. On parlait de Altman tout à l'heure sur Los Angeles. On ne peut pas ne pas penser au privé qui était sublime des purs. Là, c'est vraiment
mais
pas
épuré. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça, Nicole Kidman?
Parce qu'elle va voir pas. Alors là, peut-être qu'elle a besoin d'argent. Je crois pas que les parents
de Nicole
Kidman m'appellent. En tout cas, je ne l'espère pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est grimacée, elle a des rides. On voit. Superbe documentaire sur le travail du maquilleur et du coiffeur et du perruquier, ça c'est extraordinaire. Mais comme c'est quand même Nicole Kidman, on a constamment des allers-retours, des flashbacks pour nous dire « Non mais dans la vraie vie, elle est pas aussi moche. » Mais en même temps, là, elle est moche. Mais en même temps, regardez, là, elle est pas si moche. Et en même temps, là, elle peut être vraiment très très moche. Et alors, ça ne raconte rien. Ça n'a aucun intérêt. « Oh non, on va pas nous faire le coup de la culpabilité, du
hold-up
qui s'est mal passé, enfin tout ça. » Non, Pierre, on l'a vu 2500
fois. Alors,
et ça se termine par un twist ridicule.
D'abord, j'ai rien dit pour commencer. Maintenant, je dis 30 secondes.
Quelques mots, oui.
Non, mais Nicole Kidman, elle a voulu l'Oscar, elle n'a pas été nommée, elle a raté, et c'est la plaie du film, parce que elle est tellement là que évidemment on ne voit qu'elle, et on ne voit qu'elle dans une mauvaise performance. Moi, je suis fan de thriller et de polar. Alors, tu as tout à fait raison, par rapport à Altman, c'est nettement moins bien. Mais il me semble qu'il y a une ambiance, une lumière, une espèce de poids comme ça dans ce Los Angeles, avec
c'est
une lumière
glauque,
très glauque et très lumineuse, en même temps très dure. Et moi qui aime le polar, je ne me suis pas ennuyé. Mais je reconnais, c'est pas un chef-d'œuvre.
Charlotte.
Je pense que en 1h30, c'était bouclé. Le problème, c'est que le film fait 2h, donc c'est interminable. On n'en peut plus. Et il y a une sorte de fascination de la réalisatrice pour le visage de Nicole Kidman qui est assez fatigante parce qu'en fait, on ne voit que ça, qu'elle est surmaquillée, surgrimée, en lady, avec la perruque la plus ridicule de l'année. Donc au bout d'un moment, ça nous sort du film constamment. Après, je rejoins Pierre. Il y a quand même un scénario assez malin. Ça
mais qui ne tient pas. Relis le scénario.
Je suis d'accord. En 2h,
ça du twist
tient
final,
pas.
C'est ridicule. Ben, ça marche pas.
S'en fiche.
C'est un polar.
On n'a pas précisé que non seulement on la voit très vieille, mais aussi très jeune.
Si, il l'a dit.
Parce que le passé inguérissable, le présent est lamentable. Alors voilà, on navigue, on tangue, on picole, on se désespère avec elle. Et puis voilà, on admire ou pas, ou du moins pas tout le temps, la performance.
Destroyer Karine Kusama. J'avais inscrit Black Snake, la légende du serpent noir de l'humoriste Thomas.
Pour mieux pas. Hein.
Guijol.
C'est pas grave.
Oui, mais j'avais inscrit parce qu'il y a quand même dedans Bernard Ménez. Respect, Bernard Ménez. Est-ce qu'on l'oublie ou.
On va quand même dire que ça a coûté 9 millions d'euros et quand on voit le film en salle, on se dit, au bas mot, avec 200 000, je fais la même chose, quoi. Enfin, pas besoin de dépenser autant. C'est ni fait ni à faire en termes de mise en scène. Il n'y a pas de scénario, une succession de gags qui s'épuisent d'eux-mêmes. Ils sont deux à la mise en scène. Je crois qu'ils se sont annulés en termes de talent.
Bah, c'est réalisé à quatre pieds.
Personne. Mais c'est réalisé en pilote automatique. Oui, ils sont au café, puis ça tourne.
Hein. À quel pied, ouais.
C'est une catastrophe. Quoi. Je pense que ça voulait rivaliser avec Au service de la France, je pense. Tu sais, cette série télé comme ça, mais
oui, avec un petit peu OSS 117 et les films africains.
Une parodie de films de super-héros, mais enfin qui tombe à plat dès le début. Il n'y a pas de rire.
Ce n'est même pas drôle, mais bon.
Non, mais bon,
on est tous à rire.
On est gentil, on n'a même pas cité le nom du réalisateur.
Si, je l'ai dit.
Eh ben oui, et ben je vais dire.
Oreille d'or ce soir. Hein.
Ah, ben, c'est un cachalot malade.
Tu vas pas dans les sous-marins, madame.
Ben, c'est un cachalot malade. Non, mais franchement, non, c'est terrible. C'est embarrassant. Je veux dire, heureusement que c'est un black qui a fait le film, sinon ce serait vraiment raciste. Non, je veux dire, c'est épouvantable.
Allez, un conseil positif pour terminer cette émission, Daniel.
Alors, un splendide coffret de 3 DVD Blu-ray. Jacques Rivette, La fiction au pouvoir. C'est 3 films très très rares. Il y a Duel Norrois et un film fantôme qui n'a jamais été fait, parce qu'il était avec Leslie Caro et Albert Finet, mais qui n'a pas été fait. Et un troisième, il s'appelle Mary Gorin, une des actrices sublimes, et une grâce et une élégance absolument magnifiques.
Xavier.
Une curiosité, quelque chose de totalement improbable qui ressort en salle, mais qui sortira également en DVD, toujours chez Carlotta, Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto de 1969. Le mythe, la tragédie d'Œdipe dans le milieu queer, trans et gay de Tokyo à la fin des années 60, où donc les pères couchent avec les fils, se crèvent quand même les yeux et en même temps font des choses dans les toilettes. J'adore.
Youpi!
Mon conseil, et je ne dois pas être le seul, c'est Une vie de cinéma de Michel Simon, préfacé chez Gallimard par Edouard Baird, le bilan d'une vie de critique et de journaliste avec le récit, notamment, il y a plein de choses, hein, c'est 500 pages, du tournage du Christ s'est arrêté à Eboli, des entretiens formidables avec Coppola. Il raconte la scène des hélicoptères. Il y avait 20 heures de rush. Aussi, il y a un voyage cinéphilique dans l'URSS de Brejnev, tout à fait improbable. Des rencontres avec Gainsbourg, Jeanne Moreau, Trintignant, Harold Pinter. Un long texte à la fin sur l'état de la critique en France. Et bien sûr, sur le triangle des Bermudes, qui est d'ailleurs maintenant devenu le pentagone des Bermudes. Ça s'appelle Une vie de cinéma. C'est de notre ami Michel Simon. Et ça aurait pu s'appeler Le cinéma d'une vie. Le conseil de Charlotte.
Un film d'animation qui va bientôt sortir. Il sort le 6 mars. C'est Funan, premier film de Denis Do, qui se passe au Cambodge en 1975, très précisément à la prise du pouvoir par les Khmers Rouges. C'est l'histoire d'un couple qui va perdre dans l'exode et les camps forcés de travail forcé leur petit garçon de 3 ans et qui vont tout faire pour essayer de retrouver leur petit garçon dans cette horrible tragédie que vivaient les Cambodgiens à l'époque. Le film a remporté le Grand Prix au Festival d'Annecy. Les deux voix, c'est Bérénice Bejo et Louis Garrel. Et c'est un film sensible, poétique, très violent, à déconseiller aux moins de 12 ans.
Pierrot.
Un coffret DVD, l'intégrale d'une cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yannick Bellon. Elle a été connue à un moment donné pour La Femme de Jean. Et là, on voit vraiment tous ses films, des documentaires qui sont magnifiques, notamment Goémon qui avait le Lion d'Or à Venise, un inédit avec Simone Signoret et Yves Montand, un portrait de Colette qui est formidable, et puis ces fictions dont j'aime beaucoup La Femme de Jean que j'ai déjà citée, et Jamais plus toujours qui est une petite merveille, où ce sont des objets comme ça qui nous ont appartenu et qui passent de propriétaire tandis que le temps comme ça fait son œuvre. C'est tout à fait sensible, donc c'est chez Dorian Film et c'est l'intégrale Yannick Bellon.
Tous ces conseils à lire, à voir, vous les trouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Théâtre de l'Alliance Française. À la technique, et je les remercie, il y avait Marie Le Peintre, Nicolas Depagraf, Éric Villenfin. La réalisation et même la mise en scène étaient signées Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu ici, au Théâtre de l'Alliance Française, au 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Et ce sera le jeudi 7 mars pour 2 émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de livres et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.